C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
On a senti un peu d'énervement hier à Québec après l'annonce du départ du whip du gouvernement, le député de la CAQ, Éric Lefebvre, qui sera candidat pour les conservateurs de M. Poilievre. Est-ce que c'est un signe de désaveu du député face à son chef puis face au gouvernement? Luc?
Ben, je pense que oui. On peut faire l'hypothèse que c'est aussi de l'opportunisme, mais je n'irai pas de ce côté-là après réflexion. Le gars, il est whip en chef. Son salaire actuel est à 180 000. En quittant, en devenant indépendant, il va tomber. Il va peut-être y rester une commission ou deux. On ne sait pas la réaction qu'aura la CAQ à son égard. Mettons qu'il est entre 131 000 puis 150 000. Il perd de l'argent, là. Pas mal d'argent pendant les années qui restent. Ben, si après il se fait élire chez les conservateurs, il améliore son sort. Un député gagne 180 000. S'il devient ministre, c'est 275 000. Alors, si on regarde juste l'affaire opportuniste, genre, je me positionne, je veux devenir ministre. Poilievre va avoir besoin de gars comme moi au Québec. C'est ça, ça serait ça la voie. C'est possible, mais je n'y accorde pas beaucoup d'importance. Je pense que il a vraiment une intention d'être plus à droite que ce que la CAQ est devenue. Parce que la CAQ a, avec la signature des conventions collectives les plus généreuses au Canada, un déficit à 11 milliards de dollars. Et pas beaucoup de décisions, à part la décision qui est surprenante de hier, de la déclaration de Trudeau, de Legault qui dit « Moi, finalement, je crois au libre-marché dans le cas du logement, mais pas dans le cas des batteries, par exemple, si on va aider largement les multinationales. Mais pour le logement, je crois au libre-marché. » À part cette déclaration-là, le gouvernement de la CAQ n'est pas très à droite. Et ça se peut, il est arrivé. Deltel avait quitté la CAQ, était parti chez les conservateurs. Lefebvre, il s'est présenté pour les conservateurs en 2008. Ce serait pas inusité que des gens se disent non, moi je veux aller avec un vrai parti de droite.
Mais c'est le genre de nouvelles du champ gauche. Il n'y a personne qui l'attendait à l'Assemblée nationale. Alors tu demandes, Paul, est-ce qu'on doit y voir un signe de désaveu? On pourrait ajouter désaffection, désamour, clairement. Éric Lefebvre ne voit pas son avenir à la CAQ, mais bien chez les conservateurs à Ottawa. Et moi, contrairement à toi, mon cher Luc, j'y vois beaucoup d'opportunisme, et je vais l'expliquer dans quelques instants, mais l'étonnement, l'énervement, peu importe les qualificatifs utilisés, viennent aussi du fait que Éric Lefebvre, c'est un fidèle à la CAQ. Il est député depuis 2016. Whip du gouvernement. Le whip, c'est le préfet de discipline du caucus, là. Alors, lorsque vous regardez la période de questions, c'est toujours lui qui est assis derrière le premier ministre. Alors, il fait partie de cette équipe, de cette garde rapprochée, entre guillemets, du premier ministre. Il fait partie des hommes de confiance de François Legault. Après qu'on ait dit ça, lorsque je dis qu'il voit son avenir davantage chez les conservateurs que chez les caquistes, ben, on peut le comprendre parce que les caquistes se retrouvent dans le troisième sous-sol quant aux intentions de vote. Et Québec 125, je vous le rappelle, prévoit s'il y avait une élection demain, la CAQ passerait, tenez-vous bien, de 90 sièges à 11 sièges. Alors, ce serait toute une débandade, alors que du côté des conservateurs, ben Poilievre a le vent dans les voiles. Alors, on a l'impression qu'Éric Lefebvre est en train de se magasiner un poste de ministre du côté d'Ottawa, parce que la probabilité qu'il devienne ministre est quand même assez forte. Il n'a jamais été ministre du côté avec la CAQ, du côté du Québec. Alors, moi, je pense qu'il est motivé par toutes sortes de convictions, enfin, je suis motivé par toutes sortes d'ambitions, mais clairement, cette décision est pour la CAQ le début d'un long supplice. Parce que là, M. Legault va avoir besoin de toutes ses convictions, va devoir être extrêmement persuasif pour conserver l'unité au sein du caucus. Quand je parle de supplice, là, parce que tous les partis politiques qui se sont trouvés dans les intentions de vote, dans le troisième sous-sol, dans les intentions de vote, ont tous connu ça. Des désaffections, une après l'autre. Alors, M. Legault devra tout faire pour éviter l'hémorragie qui pointe à l'horizon. Parce que vous savez que, comme moi, qu'il y a plusieurs ministres importants dans le gouvernement qui ne seront probablement pas candidats à la prochaine élection. Puis c'est pas une nouvelle pour personne. Tu sais, les Pierre Fitzgibbon, les Christian Dubé, Éric Girard, il branle dans le manche. Là. Est-ce qu'il va aller chez les conservateurs? Il va rester avec la CAQ?
J'ai une information pour M. Girard, par exemple.
Ah bon?
Oui. L'ex-ministre des Finances de la Colombie-Britannique a annoncé qu'il sera candidat pour les conservateurs.
Non.
Oui. Oui. Et c'est dans le Globe and Mail de ce matin. Et il y a de grandes ambitions. M. Poilievre l'aime beaucoup.
Ah.
Je veux juste dire ça de même. La job a l'air pas mal prise là, pour ce qui est de ministre des Finances du Canada dans un gouvernement Poilievre. Hey. Puis c'est un... C'est, écoute, dans ses propos, il qualifie Justin Trudeau de maniaque du guichet automatique. Étant, nous, les Canadiens, le guichet automatique, il fait des retraits sans arrêt, sans faire beaucoup de dépôts. Alors, tu vois un peu le genre de personnage.
Avis
à Éric Girard, ça se peut que sa candidature...
On s'entend que M. Girard pas à la même verve. Hein? Puis M. Poilievre aime beaucoup ce genre de politicien à la, au verbe haut. Hey, moi, la tradition britannique là, d'appeler ça un whip, là, on peut-tu mettre fin à ça? On va appeler ça le père fouettard. Ça fait plus français. Le père fouettard.
Le père fouettard.
Moi, on y va pour la France. Moi aussi, j'ai été surpris. Tu sais, je suis pas sûr, hein, pour la question. Tu sais, j'ai mes deux hypothèses, Nathalie. Je dis pas que ce n'est pas de l'opportunité. Je connais pas assez le bonhomme. Mais par contre, Arthabaska, Richemont, c'est pas gagné, ça. Parce que c'est le Bloc qui le détient pour l'instant. Est-ce que les conservateurs peuvent s'en emparer? Pas évident. Pas évident. Il y a quand même, tu sais, si c'est un opportuniste, c'est un opportuniste qui prend des risques. C'est pas évident qu'il gagne. D'ailleurs, il a perdu deux fois, lui, puis en 2008, il avait perdu avec les conservateurs contre le Bloc. Après ça, il a perdu la mairie contre Alain Reyes, la mairie de Victoriaville. Et il avait décidé de plus faire de politique parce qu'il en avait marre des défaites. Il était parti en affaires. Est-ce que là, Arthabaska, Richemont, c'est sûr qu'il va gagner? Loin, moi, je suis pas sûr pantoute.
Ben, Alain Reyes, lui a donné un coup de pouce hier en déclarant publiquement que, ben, il lui souhaitait bonne chance. Il dit, s'il est élu, il se pourrait qu'il ait un poste de ministre. Alors, tu vois, ça, c'est intéressant.
Oui. Tu sais, Alain Reyes, qui était à son mariage, d'ailleurs, hein?
Oui, alors.
Ils sont dans le potin.
Oui, mais c'est drôle parce qu'il pourrait y avoir comme une sorte de jeu de domino entre Alain Reyes et lui. C'est-à-dire que lui partirait au fédéral pour Arthabaska Richemont. Oui. Alain Reyes viendrait au provincial à la CAQ pour Arthabaska.
Non, mais Luc, moi, j'en doute un peu qu'Alain Reyes à la CAQ. Je vais te dire pourquoi. Parce que tantôt, là, ça va être difficile pour la CAQ d'aller, de convaincre des candidats de faire partie. Ben oui, parce que il y a des grands joueurs, des gros joueurs qui vont probablement quitter, comme je le disais. L'autre chose, là où ça cogne très fort, à la porte, là, c'est du côté du Parti québécois, là. Il y en a qui lèvent la main pour aller pour être candidat et candidate au Parti québécois. Pourquoi? Parce que les sondages confirment que le PQ va former probablement un prochain gouvernement. Je dis probablement, bien sûr, rien d'assuré. Mais c'est comme ça, la nature humaine, mon cher Luc, c'est comme ça.
Absolument.
Comme
ça. Puis Mario Asselin, dans sa grande candeur, a un peu révélé la patente, hein. Quand il l'a fait, en une seule phrase. D'ailleurs, c'est la seule phrase que j'ai entendue de lui depuis qu'il est élu. Je suis pas dans la région de Québec. Il a dit, j'ai été surpris de voir qu'il était le premier à quitter le bateau. Alors, en disant qu'il est le premier, ça veut dire qu'il est au courant, lui, qu'il y en aurait d'autres. Puis quitter le bateau, c'est une expression qu'on utilise pour dire, ben, ça, c'est le genre d'expression qu'on utilise pour dire, le bateau risque de couler, là. Et, donc, oui, ça m'a surpris. Oui. C'est une phrase assez révélatrice de ce qui pourrait se passer avant la prochaine élection. Je suis d'accord avec ton analyse qui consiste
à dire. C'est écrit dans le ciel. Parce que je l'ai déjà vécu, Luc, tu sais. Puis il y a plein d'autres partis qui l'ont vécu avant aujourd'hui, là. C'est ce qui va se passer à la CAQ. Ça s'est passé dans d'autres partis avant aujourd'hui. La CAQ fera pas différemment de d'autres formations politiques confrontées au genre de défis auxquels la CAQ est aujourd'hui confrontée.
Mais juste en terminant, je voudrais vous faire entendre un extrait parce que hier, ils ont nommé Mario Laframboise comme le whip pour remplacer M. Lefebvre et également François Jacques comme président du caucus qui prend la place de M. Laframboise. Et Jonathan nous a retrouvé un extrait de M. Jacques durant la campagne. Toujours bon de garder des archives. Voici ce qu'il disait de lui-même.
Première chose, je pense qu'il y a des députés terrain, il y a des députés plus parlementaires. Moi, je vais dire que j'ai toujours dit... Je suis pas bon dans rien, je suis moyen dans tout, puis j'essaie d'avancer partout quand même.
Wow, c'est l'humilité même.
Ben, c'est un commercial de la CAQ, tu sais. Ben, je trouve ça, mais c'est beau, par exemple.
Oui, pragmatique, le monsieur.
Ça, c'est monsieur Jacques.
Baisse ses attentes.
Ouais, baisse ses attentes. Parfait, ah, oui.
Très bien, on fait une pause après, on parle d'aide médicale à mourir.
La commission Normando-Ferrandaise.
Alors, il y a un sondage qui montre ce matin que 83% des Canadiens appuient l'idée, le principe des demandes anticipées d'aide médicale à mourir. Et il y a un obstacle, c'est-à-dire il faut que le gouvernement fédéral harmonise sa loi, le code criminel, avec celle du Québec. Est-ce qu'il doit le faire? Parce qu'il va le faire. Nathalie.
Oui, ça devient urgent. Ce qui va le faire, c'est la grande question. Et pour ce qui est des résultats du sondage, ben c'est extraordinaire. 83 % des Canadiens en faveur des demandes anticipées d'aide médicale à mourir. J'ai envie de vous dire, pour une fois, que les Québécois, les Canadiens sont sur la même longueur d'onde. C'est, applaudissons cette belle unité. Et d'ailleurs, le Québec, avec l'adoption de sa loi, fait office de leader sur ces questions au Canada. Et c'est très rassurant pour les Canadiens de savoir que le Québec a élargi sa loi sur l'enjeu des demandes d'aide médicale, des demandes anticipées d'aide médicale à mourir. Pour ce qui est de l'harmonisation de la loi, ben c'est le nœud là, actuellement qui oppose Québec à Ottawa. La ministre Sonia Bélanger a fait adopter sa loi et elle a demandé à Ottawa, elle dit, écoutez, il faut urgemment harmoniser nos lois. Pourquoi? Parce que l'assise légale de l'enjeu des demandes médicales, des demandes anticipées, là, repose sur le code criminel. Alors ça veut dire concrètement que s'il n'y a pas harmonisation des lois, ben le Québec ne peut pas autoriser les demandes parce que certains professionnels qui autorisent, qui accordent ces demandes pourraient être poursuivis au criminel. Alors la ministre est tellement tente de trouver une voie de passage qu'elle a même suggéré à Ottawa de faire une exception pour le Québec en disant, écoutez, que le code criminel s'applique uniquement au Québec sur cet enjeu-là. Là, le Bloc québécois s'en est mêlé à Ottawa. Enfin bref, c'est devenu une question très politique. Et le Ottawa résiste parce que le gouvernement n'est pas convaincu que c'est la bonne direction compte tenu qu'il manque de données probantes sur l'enjeu des demandes anticipées. Mais là, avec ce sondage qui a été fait pour mourir de l'organisme Mourir dans la dignité du Canada, bien là, Ottawa a un argument de plus pour procéder. Alors, vivement, cette harmonisation, honnêtement, on en a grandement besoin.
Bien, ça se produira jamais, malheureusement, parce que il y a eu une tentative, comme dit Nathalie, le Bloc québécois a demandé un amendement pour étendre aux demandes anticipées. Et personne n'a voté pour, ni les libéraux, ni les conservateurs. Les conservateurs ont voté contre, on s'entend, parce que ça fait pas partie de leur orientation politique, mais les libéraux ont aussi voté contre, parce qu'ils trouvaient que les provinces n'étaient pas prêtes à la même vitesse. Et donc, c'est la grande opération centralisation. T'sais, on va faire une loi quand on sera prêt, que toutes les provinces seront prêtes, puis que on aura mis tous les détails dedans, donc on va reporter ça en 2027. Mais qui va être au pouvoir en 2027? C'est les conservateurs. Fait que les conservateurs, et là, la dynamique des conservateurs, c'est la même sur cette question-là que la dynamique du contrôle d'armes chez les républicains aux États-Unis. C'est-à-dire que même si la population est favorable, en gros, il reste que t'as un lobby au sein du Parti conservateur ou du Parti républicain qui, eux, sont prêts à déchirer leur chemise. Et parce que ce lobby-là représente des votes importants dans leur circonscription à Saskatchewan et en Alberta, par exemple, ben ça se fera jamais. Alors, c'est tough luck. Alors maintenant, est-ce qu'on peut procéder par dérogation? Ça serait la possibilité qui est évoquée par Rodolphe Hosni, qui a envoyé une lettre au devoir en disant, c'est, je pense, parce que lui, sa mère a demandé l'aide à mourir, lui, qui est un conservateur reconnu, donc un collaborateur ici au 98.5, bien connu, il dit, ben, il y a si le fédéralisme était capable d'assouplissement, donc par exemple pour la taxe carbone, l'interdiction des plastiques, la laïcité, l'aide à mourir, on serait capable de donner des pouvoirs, faire des exceptions. D'ailleurs, Trudeau en a fait une pour la taxe carbone sur l'huile de chauffage en Atlantique, dans les provinces atlantiques récemment.
Mais là, c'est parce que c'est un enjeu, c'est le code criminel. Entre
voilà.
Autres. Mais le docteur L'Espérance, qui est président de l'Association là, pour le droit de l'aide médicale à mourir, disait ce matin qu'il y avait un point important. Au Québec, le DPCP pourrait décider de ne pas poursuivre quelqu'un qui ferait une demande anticipée selon les critères de la loi québécoise, puis obtient l'aide médicale à mourir. Le fait que le DPCP, comme à l'époque pour l'avortement, disant « OK, c'est ça le code criminel, mais nous, ici au Québec... »
C'est ça une directive qui sera envoyée par le DPCP.
Ben, ça pourrait être une direction générale, une décision, c'est-à-dire générale.
C'est ça la porte de sortie.
Ben, ça peut, mais en même temps, puis il y avait raison de le souligner, ça peut venir d'ailleurs au Canada, si tu as des groupes organisés comme ceux dont tu parles, qui pourraient dire « Hey, ils sont en train de faire ça au Québec, on ne laissera pas passer... » C'est vrai pour l'avortement.
Puis
c'est
une poursuite en cours supérieure.
Ben, ça pourrait être ça aussi, là.
Mais ce bout-là, c'est ça que je me posais comme question.
Puis là, les médecins vont être nerveux. T'sais, est-ce que tu vas vouloir donner l'aide médicale à quelqu'un qui l'a anticipé 2 ans à l'avance?
Ben, je pense qu'il va y avoir quelques médecins, triés sur le volet. Mais la plupart vont dire non. Comme d'ailleurs, la plupart disent non à ce moment, hein. C'est toujours les mêmes qui signent les demandes d'aide à mourir. Enfin, c'est pas tout le monde qui signe. Et donc, est-ce que par le DPCP ou par la dérogation, on peut contourner ça? Sinon, on est coincé là, hein? On est coincé. Mmh.
Moi, je suis assurée que le ministère de la Justice évalue toutes les options actuellement. Celle évoquée publiquement à ton micro par M. L'Espérance fait partie probablement de cette voie de passage que tente d'établir le Québec. Là. Politiquement, les choses peuvent évoluer, Luc, disons ça comme ça. la façon dont tu décris le contexte, c'est sûr qu'il y aura encore énormément de résistance, mais on ne sait jamais. J'aimerais, moi, cependant, vous apporter sur une autre piste qui me préoccupe énormément, puis je ne sais pas ce que vous en pensez. L'aide médicale au Québec, on sait que de tous les États qui permettent l'aide médicale à mourir au Québec, c'est au Québec où cette solution est la plus populaire. Ce qui me préoccupe énormément, c'est qu'on a de plus en plus l'impression que l'aide médicale à mourir au Québec est perçue comme une solution à l'absence de soins. Et c'est pas seulement perçu comme mettre fin un mécanisme pour mettre fin à mes souffrances, mais c'est de plus en plus perçu comme ça. Parce que moi, c'est comme ça que je...
Oui, c'est un vrai débat, ça.
Oui, c'est un vrai débat. Et c'est le dérapage, entre guillemets, qu'on n'osait pas trop anticiper, tu sais, qu'on mettait en dessous du tapis. Puis l'exemple, très bon exemple que je peux vous donner, c'est le magnifique reportage qui a été fait par David Gentilly à Radio-Canada. Le cas de M. Normand Meunier, un pauvre homme de 66 ans, tétraplégique, qui a passé 96 heures sur une civière d'urgence à l'hôpital de Saint-Jérôme. En janvier dernier, il n'a pas reçu les soins appropriés à sa condition. Résultat, il a développé une immense plaie à son fessier. Ça a créé un trou béant, impossible de guérir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le 29 mars dernier, il a reçu l'aide médicale à mourir. Et là, sa conjointe je salue les membres de sa famille, je leur offre mes condoléances. C'est une histoire immensément triste qui met en lumière cette réalité qui devrait nous préoccuper collectivement.
Puis tu sais, Nathalie, que le comité consultatif de l'Assemblée nationale a aussi beaucoup évoqué ça. Puis on voit bien que les chiffres au Québec sont beaucoup plus élevés que dans le reste du monde. On est le deux fois plus d'aide à mourir, à peu près à 8% des décès, que les Pays-Bas, qui pourtant le font depuis longtemps, Belgique, Pays-Bas. Moi, je vais poser la question contraire à celle que tu as posée. Est-ce que s'il n'y a pas d'aide à mourir, les soins vont s'améliorer? Est-ce que le gars avec sa plaie de lit, là, mettons qu'il n'y a pas l'aide à mourir, est-ce qu'il n'aurait pas eu sa plaie de lit? Je pense que
spontanément, on va répondre non.
Parce que l'idée, c'est de dire la société va se mobiliser. Puis voyant la misère et voyant la détresse et voyant qu'il n'y a pas d'aide à mourir, mettons, on va se mobiliser pour mettre plus de ressources dans la santé puis on va éviter des situations comme ce monsieur qui a eu une plaie de vie. Mais j'y crois pas, moi.
Mais je pense que c'est pas tant... Ça peut arriver, là, comme ce cas-là, mais c'est surtout de la crainte, de la souffrance, de la douleur. Et de devenir un fardeau pour d'autres. Moi, j'ai vu ça beaucoup dans des cas, des gens qui disent c'est pas vrai là. Si par exemple j'ai un problème cognitif qui prend de l'ampleur, puis je reconnais pas mes proches, puis bon, je pense qu'il y a beaucoup de ça. Mais ce que les gens oublient, deux choses. D'abord, on a une population vieillissante, fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup de cas. Puis deuxièmement, il y a d'autres options que l'aide médicale à mourir. J'avais une discussion avec un ami il y a deux semaines. Puis là, de dire, OK, à 14h pile, c'est le grand départ. Il y en a qui sont très confortables puis qui font une fête, puis il y en a d'autres un peu moins. Puis il y a des approches palliatives qui existent. Encore faut-il que les hôpitaux soient capables de donner le traitement. Madame Bourassa est décédée. C'est parce qu'elle n'était pas à bonne place. Tu sais, je veux dire, dans l'hôpital, on pouvait pas la monitorer. Ça n'a pas d'allure. Mais là, tu sais, de choisir la façon de mourir... Ça ne se limite pas à une seule option.
C'est un débat qui est tellement important, mais Paul, moi, je suis extrêmement préoccupée et je refuse de vivre dans une société où l'aide médicale devient effectivement une solution, une alternative à une possibilité au manque de soins. Et tu sais, les personnes âgées qui sont évincées, là, je me souviens, là, il y a une personne âgée qui a dit publiquement, ben écoutez, moi je suis malade, on m'évince de mon logement, ben je vais demander l'aide médicale à mourir. Tu sais, je comprends ce que tu dis, Paul, mais moi, le cas de Normand Meunier, là, c'est le début d'un nouveau phénomène. Parce que c'est pas vrai que le ministre nous dit que les soins vont s'améliorer, comme Luc l'a dit. Là, il y a pas mal de sceptiques dans la salle. La population est vieillissante, tu l'as dit, Paul. Fait que là, on se dit, coudonc, vers quoi on s'en va dans l'avenir là, pour ce qui est de notre système de santé. Enfin.
Merci à tous les deux. On vous retrouve demain, vendredi, pour le rapport de la semaine.
C'est 23.